Acte 1er, scène 2. Dans le château du comte de Gloucester. Entre Edmond, une lettre à la main. Edmond. Nature, tu es ma déesse. C'est à ta loi que sont voués mes services. Pourquoi subirais-je le fléau de la coutume et permettrais-je à la subtilité des nations de me déshériter sous prétexte que je suis venu 12 ou 14 lunes plus tard que mon frère? Bâtard, pourquoi? Ignoble, pourquoi? Est-ce que je n'ai pas la taille aussi bien prise, l'âme aussi généreuse, les traits aussi réguliers que la progéniture d'une honnête madame? Pourquoi nous jeter à la face l'ignominie et la bâtardise? Ignoble, ignoble, ignoble. Nous, qui, dans la furtive impétuosité de la nature, puisons plus de vigueur et de fougue que n'en exige en un lit maussade, insipide et épuisé la procréation de toute une tribu de damerets engendrées entre le sommeil et le réveil. Ainsi donc, Edgar le légitime, il faut que j'aie votre patrimoine. L'amour de notre père appartient au bâtard Edmond aussi bien qu'au fils légitime. Le beau mot, légitime. Soit, mon légitime. Si cette lettre agit, et si mon idée réussit, Edmond l'ignoble primera Edgar le légitime. Je grandis, je prospère. Allons, Dieu, tenez pour les bâtards. Gloucester. Kent bannit ainsi, le Français s'éloignant furieux, et le roi partit ce soir même, renonçant à son pouvoir et réduit à une pension, tout cela coup sur coup. Edmond, eh bien, quelle nouvelle? Edmond, feignant de cacher la lettre. Aucune, n'en déplaise à votre seigneurie. Gloucester. Pourquoi êtes-vous si pressé de serrer cette lettre? Edmond. Je ne sais aucune nouvelle, monseigneur. Gloucester. Quel papier lisiez-vous là? Edmond. Ce n'est rien, monseigneur. Gloucester. Vraiment? Pourquoi donc alors cette terrible promptitude à l'empocher? Ce qui n'est rien n'a pas besoin de se cacher ainsi. Faites voir. Allons, si ce n'est rien, je n'aurai pas besoin de bicycle. Edmond. Je vous supplie, monsieur, de me pardonner, c'est une lettre de mon frère que je n'ai pas lue en entier, mais d'après ce que j'en connais, je ne la crois pas faite pour être mise sous vos yeux. Gloucester, donnez-moi cette lettre, monsieur. Edmond, je ferai mal que je la détienne ou que je la donne. Le contenu, d'après le peu que j'ai compris, en est blâmable. Gloucester, voyons, voyons. Edmond, j'espère, pour la justification de mon frère, qu'il n'a écrit cela que pour éprouver ou tâter ma vertu. Il remet la lettre au comte. Gloucester lisant. Ce respect convenu pour la vieillesse nous fait une vie amère de nos plus belles années. Il nous prive de notre fortune jusqu'à ce que l'âge nous empêche d'en jouir. Je commence à trouver une servitude lâche et niaise dans cette sujétion à une tyrannie sénile qui gouverne non pas parce qu'elle est puissante, mais parce qu'elle est tolérée, venez me voir que je puisse vous en dire davantage. Si notre père pouvait dormir jusqu'à ce que je l'eusse éveillé, vous posséderiez pour toujours la moitié de son revenu, et vous vivriez le bien-aimé de votre frère, Edgar. Humph, une conspiration. Pouvez dormir jusqu'à ce que je l'eusse éveillé, vous posséderiez la moitié de son revenu? Mon fils, Edgar? Sa main a-t-elle pu écrire ceci? Son cœur, son cerveau, le concevoir? Quand cette lettre vous est-elle parvenue? Qui l'a apportée? Edmond. Elle ne m'a pas été apportée, monseigneur, et voilà l'artifice. Je l'ai trouvée jetée sur la fenêtre de mon cabinet. Gloucester. Vous reconnaissez cet écrit pour être de votre frère? Edmond. Si la teneur en était bonne, monseigneur, j'oserais jurer que oui, mais puisqu'elle est telle, je voudrais me figurer que non. Gloucester. C'est de lui. Edmond. C'est de sa main, monseigneur, mais j'espère que son cœur n'y est pour rien. Gloucester. Est-ce qu'il ne vous a jamais sondé sur ce sujet? Edmond. Jamais, monseigneur. Mais si je lui ai souvent entendu maintenir que, quand les fils sont dans la force de l'âge et les pères sur le déclin, le père devrait être comme le pupille du fils, et le fils administrer les biens du père. Gloucester. Oh, scélérat, scélérat! L'idée même de sa lettre, scélérat abhorré, dénaturé, odieux! Misérable brute, pire que la brute. Allez le chercher, mon cher, je vais l'arrêter. Abominable scélérat, où est-il ?
Edmond.
Je ne sais, au juste, monseigneur, si vous voulez bien suspendre votre indignation contre mon frère, jusqu'à ce que vous puissiez tirer de lui les informations plus certaines sur ses intentions, vous suivrez une marche plus sûre. Si, au contraire, vous méprenant sur ses desseins, vous procédez violemment contre lui, vous ferez une large brèche à votre honneur et vous ruinerez son obéissance ébranlée jusqu'au cœur. J'oserais gager ma tête qu'il a écrit ceci uniquement pour éprouver mon affection envers votre seigneurie et sans aucune intention menaçante.
Gloucester. Le croyez-vous ?
Edmond. Si votre seigneurie le juge convenable, je vous mettrai à même de nous entendre conférer sur tout ceci et de vous édifier par vos propres oreilles, et cela pas plus tard que ce soir.
Gloucester.
Il ne peut pas être un pareil monstre.
Edmond.
Il ne l'est pas, je vous l'assure.
Gloucester.
Envers son père, qu'il aime si tendrement, si absolument, si à l'éther. Trouvez-le, Edmond. Tâchez de le circonvenir. Je vous prie, dirigez l'affaire au gré de votre sagesse. Il faudrait que je cessasse d'être père, moi, pour avoir le sang-froid nécessaire ici.
Edmond.
Je vais le chercher, monsieur, de ce pas. Je mènerai l'affaire aussi habilement que je pourrai, et je vous tiendrai au courant.
Gloucester rêveur.
Ces dernières éclipses de soleil et de lune ne nous présagent rien de bon. La sagesse naturelle a beau les expliquer d'une manière ou d'une autre, la nature n'en est pas moins bouleversée par leurs effets inévitables. L'amour se refroidit, l'amitié se détend, les frères se divisent, émeutes dans les palais, trahison, rupture de tout lien entre les pères et les fils. Ce misérable, né de moi, justifie la prédiction. Voilà le fils contre le père. Le roi se dérobe au penchant de la nature. Voilà le père contre l'enfant. Nous avons vu les meilleurs de nos jours. Machination, perfidie, guet-apens, tous les désordres les plus sinistres nous harcèlent jusqu'à nos tombes. Trouve ce misérable, Edmond. Tu n'y perdras rien. Fais la chose avec précaution. Et le noble, le loyal Kent, banni. Son crime, l'honnêteté.
Étrange, étrange.
Il sort.
Edmond.
C'est bien là l'excellente fatuité des hommes. Quand notre fortune est malade, souvent par suite des excès de notre propre conduite, nous faisons responsables de nos désastres le soleil, la lune et les étoiles, comme si nous étions scélérats par nécessité, imbéciles par compulsion céleste, fourbes, voleurs et traîtres par la prédominance des sphères, ivrognes, menteurs et adultères, par obéissance forcée à l'influence planétaire et coupables en tout par violence divine. Admirable subterfuge de l'homme putassier, mettre ses instincts de bouc à la charge des étoiles. Mon père s'est conjoint avec ma mère sous la queue du dragon, et la grande ours a présidé ma nativité, d'où il s'ensuit que je suis brutal et paillard. Bah, j'aurais été ce que je suis quand la plus virginale étoile du firmament aurait cligné sur ma bâtardise.
Edgar.
Entre Edgar. Il arrive à point comme la catastrophe de la vieille comédie. Mon rôle, à moi, est une sombre mélancolie, accompagnée de soupirs comme on en pousse à Bedlam. Oh, d'un air absorbé. Oh, ces éclipses présagent toutes ces divisions. Fa sol la mi.
Edgar.
Eh bien, frère Edmond, dans quelle sérieuse méditation êtes-vous ?
Edmond.
Je réfléchis, frère, à une prédiction que j'ai lue l'autre jour sur ce qui doit suivre ces éclipses.
Edgar. Est-ce que vous vous occupez de ça ?
Edmond. Les effets qu'elle énumère ne se manifestent, je vous assure, que trop, malheureusement. Discorde contre nature entre l'enfant et le père, mort, disette, dissolution d'amitiés anciennes, division dans l'État, menaces et malédictions contre le roi et les nobles, dissidence sans motif, proscription d'amis, dispersion de cohortes, infidélité conjugale et je ne sais quoi.
Edgar.
Depuis quand êtes-vous l'adepte de l'astronomie ?
Edmond.
Allons, allons. Quand avez-vous quitté mon père ?
Edgar.
Eh bien, hier au soir.
Edmond.
Lui avez-vous parlé ?
Edgar.
Oui, 2 heures durant.
Edmond.
Vous êtes-vous séparé en bons termes ? Ne vous a-t-il manifesté aucun déplaisir, soit dans ses paroles, soit dans sa contenance ?
Edgar.
Aucun.
Edmond.
Demandez-vous en quoi vous pouvez l'avoir offensé ? Et je vous en supplie, évitez sa présence jusqu'à ce que la vivacité de son déplaisir
et eut le temps de s'apaiser. En ce moment, il est à ce point exaspéré que la destruction de votre personne pourrait à peine le calmer.
Edgar, quelque scélérat m'aura fait tort auprès de lui.
Edmond, c'est ce que je crains. Je vous en prie, gardez une patiente réserve jusqu'à ce que la violence de sa rage se soit modérée. Écoutez, retirez-vous chez moi, dans mon logement. De là, je vous mettrai à même d'entendre parler Milord. Allez, je vous prie. Voici ma clé. Pour peu que vous vous hasardiez dehors, marchez armé.
Edgar. Armé, frère ?
Edmond. Frère, je vous conseille pour le mieux, marchez armé. Je ne suis pas un honnête homme, s'il est vrai qu'on vous veuille du bien. Je ne vous ai dit que très faiblement ce que j'ai vu et entendu. Rien qui puisse vous donner l'idée de l'horrible réalité. Je vous en prie, partez.
Edgar.
Aurai-je bientôt de vos nouvelles ?
Edmond.
Je suis tout à votre service en cette affaire.
Edgar sort.
Un père crédule, un noble frère dont la nature est si éloignée de faire le mal qu'il ne le soupçonne même pas. Comme sa folle honnêteté est aisément dressée par mes artifices.
Oh, je vois l'affaire, que je doive mon patrimoine à mon esprit, sinon à ma naissance. Tout moyen m'est bon qui peut servir à mon but.
Il sort. Acte 1er, scène 3e, dans le château du duc d'Albany. Entre Gonéril et son intendant Oswald.
Gonéril.
Est-il vrai que mon père ait frappé un de mes gentilshommes qui réprimandait son fou ?
Oswald.
Oui, madame.
Gonéril.
Nuit et jour, il m'outrage. À toute heure, il éclate en quelque grosse incartade qui nous met tous en désarroi. Je ne l'endurerai pas. Ses chevaliers deviennent turbulents et lui-même récrimine contre nous pour la moindre vétille. Quand il reviendra de la chasse, je ne veux pas lui parler. Dites que je suis malade.
Si vous vous relâchez dans votre service, vous ferez bien. Je répondrai de la faute.
Bruit de corps.
Oswald.
Il arrive, madame, je l'entends.
Gonéril.
Affecté, autant qu'il vous plaira, la lassitude et la négligence, vous et vos camarades. Je voudrais qu'il en fît un grief. Si ça lui déplaît, qu'il aille chez ma sœur, dont la résolution, je le sais, et d'accord avec la mienne pour ne pas se laisser maîtriser. Vieillard imbécile qui voudrait encore exercer l'autorité dont il s'est dépouillé. Ah, sur ma vie, ces vieux fous redeviennent enfants, et il faut les traiter par la rigueur quand ils abusent de nos cajoleries. Rappelez-vous ce que j'ai dit.
Oswald.
Fort bien, madame.
Gonéril.
Et que ces chevaliers soient traités par vous plus froidement. Peu importe ce qui en résultera. Prévenez vos camarades à cet effet. Je voudrais, et j'y parviendrai, faire surgir une occasion de m'expliquer. Je vais vite écrire à ma sœur de suivre mon exemple. Préparez le dîner.
Ils sortent. Acte 1er, scène 4e, une autre partie du château.
Entre Kent déguisé. Kent, les yeux sur ses vêtements. Si je puis aussi bien en empruntant un accent étranger travestir mon langage, ma bonne intention obtiendra le plein succès pour lequel j'ai déguisé mes traits. Maintenant, Kent le banni, si tu peux te rendre utile, là même où tu es condamné, et puisses-tu y réussir, le maître que tu aimes te retrouvera plein de zèle.
Bruit de corps.
Entre Lear avec ses chevaliers et sa suite.
Lear.
Que je n'attende pas le dîner un instant. Allez, faites-le servir.
Quelqu'un de la suite sort.
À Kent. Hey, toi, qui es-tu ?
Kent.
Un homme, monsieur.
Lear.
Quelle est ta profession ? Que veux-tu de nous ?
Kent.
Ma profession, la voici. Ne pas être au-dessous de ce que je parais, servir loyalement qui veut m'accorder sa confiance, aimer qui est honnête, frayer avec qui est sage et qui parle peu, redouter les jugements, combattre quand je ne puis faire autrement, et ne pas manger de poisson.
Lear.
Qui es-tu ?
Kent.
Un compagnon fort honnête, et aussi pauvre que le roi.
Lear.
Si tu es aussi pauvre comme sujet qu'il l'est comme roi, tu es assez pauvre en effet.
Que veux-tu ?
Kent.
Du service.
Lear. Qui voudrais-tu servir ?
Kent.
Vous.
Lear.
Le connais-tu, camarade ?
Kent.
Non, monsieur. Mais vous avez dans votre mine quelque chose qui me donne envie de vous appeler maître.
Lear.
Quoi donc ?
Kent.
L'autorité.
Lear.
Quel service peux-tu faire ?
Kent. Je puis garder honnêtement un secret, monter à cheval, courir, gâter une curieuse histoire en la disant, et délivrer vivement un message simple. Je suis bon à tout ce que peut un homme ordinaire, et ce que j'ai de mieux est ma diligence. Lire. Quel âge as-tu ? Kent. Ni assez jeune, monsieur, pour aimer une femme à l'entendre chanter, ni assez vieux pour raffoler d'elle par n'importe quel motif. J'ai 48 ans sur le dos. Lire. Suis-moi, tu me serviras. Si tu ne me déplais pas davantage après dîner, je ne te renverrai pas de sitôt. Le dîner. Hola, le dîner. Où est mon drôle ? Mon fou. Qu'on aille chercher mon fou. Sort un chevalier. Entre Oswald. Eh, vous, l'ami, où est ma fille ? Oswald. Permettez, il sort. Lire. Que dit ce gaillard-là ? Rappelez ce maroufle. Un chevalier sort. Où est mon fou ? Hola ! Je crois que tout le monde dort. Le chevalier rentre. Eh bien, où est ce métis ? Le chevalier. Il dit, monseigneur, que votre fille n'est pas bien. Lire. Pourquoi le maraud n'est-il pas revenu quand je l'appelais ? Le chevalier. Sire, il m'a répondu fort rondement qu'il ne le voulait pas. Lire. Qu'il ne le voulait pas ? Le chevalier. Je ne sais pas ce qu'il y a, monseigneur, mais selon mon jugement, votre Altesse n'est pas traitée avec la même affection cérémonieuse que par le passé. Il y a apparemment un grand relâchement de bienveillance, aussi bien parmi les gens de service que chez le duc lui-même et chez votre fille. Lire. Ah, tu crois ? Le chevalier. Je vous conjure de m'excuser, monseigneur, si je me méprends, mais mon zèle ne saurait rester silencieux quand je crois votre Altesse lésée. Lire. Tu me rappelles là mes propres observations. J'ai remarqué depuis peu une vague négligence, mais j'aimais mieux accuser ma jalouse susceptibilité qu'y voir une attention, un parti pris de malveillance. Je veux y regarder de plus près. Mais où est mon fou ? Je ne l'ai pas vu ces deux jours-ci. Le chevalier. Depuis que notre jeune maîtresse est partie pour la France, sire, le fou s'est beaucoup affecté. Lire. Assez. Je l'ai bien remarqué. Un chevalier. Allez dire à ma fille que je veux lui parler. À un autre. Vous, allez chercher mon fou. Les deux chevaliers sortent. Rentre Oswald. Lire. Hola, vous, monsieur. Vous, monsieur, venez ici. Qui suis-je, monsieur ? Oswald. Le père de madame. Lire. Le père de madame. Ah, méchant valet de monseigneur. Engeance de putain, maraud, chien. Oswald. Je ne suis rien de tout cela, monseigneur. Je vous en demande pardon. Lire. Osez-vous lancer vos regards sur moi, misérable ? Il le frappe. Oswald. Je ne veux pas être frappé, monseigneur. Kent, le renversant d'un croc en jambe. Ni faire la culbute. Mauvais joueur de ballon. Lire. Je te remercie, camarade. Tu me sers et je t'aimerai. Kent à l'intendant. Allons, messire, levez-vous et détalez. Je vous apprendrai les distances. Détalez, détalez. Si vous voulez mesurer encore une fois votre longueur de bélitre, restez. Détalez donc, vous dis-je. Êtes-vous raisonnable ? Vite ! Il pousse Oswald dehors. Lire. Ah, mon aimable valet, je te remercie. Voici des arts sur ce service. Il lui donne sa bourse. Entre le fou. Le fou. Je veux le rétribuer, moi aussi. Offrant à Kent son bonnet. Voici mon bonnet d'âne. Lire. Eh bien, mon drôle mignon, comment vas-tu ? Le fou à Kent. L'ami, prenez donc mon bonnet d'âne. Kent. Pourquoi, fou ? Le fou. Pourquoi ? Parce que vous prenez le parti d'un disgracié ? Ah, si tu ne sais pas sourire du côté où souffle le vent, tu attraperas bien vite un rhume. Tiens, voici mon bonnet d'âne. Montrant lire. Ouida, ce compagnon a banni deux de ses filles et a donné la bénédiction à la troisième, malgré lui. Si tu te tâches à lui, tu dois absolument porter mon bonnet d'âne. Comment va, mon oncle ? Je voudrais avoir deux bonnets d'âne si j'avais deux filles. Lire. Pourquoi, mon gars ? Le fou. Dans le cas où je leur donnerai tout mon bien, je garderai les bonnets d'âne pour moi seul. Tendant son bonnet à lire. Je te donne le mien, que tes filles te fassent aumône de l'autre. Lire. Gare le fouet, coquin. Le fou. La vérité est une chienne qui se relègue au chenil. On la chasse à coups de fouet tandis que la braque, grande dame, peut s'étaler au coin du feu et puer. Lire. Sarcasme cruellement amer pour moi. Le fou à Kent. L'ami. Je vais t'apprendre une oraison. Lire. Va. Le fou. Attention, mon oncle. Et plus que tu ne montres, parle moins que tu ne sais, prête moins que tu n'as, chevauche plus que tu ne marches, apprends plus que tu ne crois, risque moins que tu ne gagnes, renonce à ta boisson et à ta putain, et reste au logis et tu obtiendras plus de 2 dizaines à la 20aine. Kent, cela ne vaut rien, fou. Le fou. Alors, c'est comme la parole d'un avocat sans salaire. Vous ne m'avez rien donné pour ça. Pourriez-vous pas, mon oncle, tirer parti de rien ? Lire. Eh non, mon enfant. Lire. Eh non, enfant. Rien ne peut se faire de rien. Le fou à Kent. C'est justement à quoi se monte la rente de sa terre. Je t'en prie, dis-le-lui, il n'en voudrait pas croire un fou. Lire. Mauvais fou. Le fou. Sais-tu la différence, mon garçon, entre un mauvais fou et un bon fou ? Lire. Non, mon gars. Apprends-le-moi. Le fou. Que le Seigneur qui t'a conseillé de renoncer à tes terres vienne se mettre près de moi, ou prends sa place, toi, le bon fou et le mauvais vont apparaître immédiatement. Se désignant. Voici l'un en livrée, montrant lire, et l'autre, le voilà. Lire. Est-ce que tu m'appelles fou, garnement ? Le fou. Tous les autres titres, tu les as abdiqués. Celui-là, tu es né avec. Kent. Ceci n'est pas folie entière, monseigneur. Le fou. Non, ma foi. Les seigneurs et les grands ne veulent pas que je l'accapare toute. Quand j'en aurai le monopole, ils en voudraient leur part. Les dames non plus ne veulent pas me laisser le privilège de la folie. Il faut qu'elles grappillent. Donne-moi un œuf, mon oncle, et je te donnerai 2 couronnes. Lire. 2 couronnes ? De quelle sorte ? Le fou. Eh bien, les 2 couronnes de la coquille, après que j'aurai cassé l'œuf par le milieu et mangé le contenu. Le jour où tu as fendu ta couronne par le milieu pour en donner les 2 moitiés, tu as porté ton âne sur ton dos pour passer le bourbier. Tu avais peu d'esprit sous ta couronne de cheveux blancs quand tu t'es défait de ta couronne d'or. Ai-je parlé en fou que je suis ? Que le premier qui dira que oui reçoive le fouet. Il chante. Les fous n'ont jamais eu de moins heureuses années. Car les sages sont devenus sots et ne savent plus comment porter leur esprit, tant leurs mœurs sont extravagantes. Lire. Depuis quand, Marot, êtes-vous tant en veine de chansons ? Le fou. Eh bien, mon oncle, c'est depuis que tu t'es fait l'enfant de tes filles, car le jour où tu leur as livré la verge en mettant bas tes culottes, chantant, soudain elles ont pleuré de joie, et moi j'ai chanté de douleur, à voir un roi jouer à cligne-musette et se mettre parmi les fous. Je t'en prie, mon oncle, trouve un précepteur qui enseigne à ton fou à mentir. Je voudrais bien apprendre à mentir. Lire. Si vous mentez, qu'aucun vous serait fouetté. Le fou. Quelle merveilleuse parenté peut-il y avoir entre toi et tes filles ? Elles veulent me faire fouetter si je dis vrai. Toi, tu veux me faire fouetter si je mens. Et parfois, je suis fouetté si je garde le silence. J'aimerais mieux être n'importe quoi que fou. Et pourtant, je ne voudrais pas être toi, mon oncle. Tu as épluché ton bon sens des 2 côtés et tu n'as rien laissé au milieu. Voici venir une des épluchures. Entre Gonéril. Lire. Eh bien, ma fille, pourquoi ce sombre diadème ? Il me semble que depuis peu vous avez le front bien boudeur. Le fou. Tu étais un joli gaillard quand tu n'avais pas à t'inquiéter de sa bouderie. Maintenant, tu es un 0 sans valeur. Je suis plus que toi maintenant. Je suis un fou. Tu n'es rien. Agonéril. Oui, morbleu, je vais retenir ma langue. Votre visage me l'ordonne, quoique vous ne disiez rien. Chut, chut. Qui ne garde ni mie ni croûte, par dégoût de tout, s'expose au besoin. Montrant lire. Voici une cosse vide. Gonéril à lire. Monsieur, ce n'est pas seulement votre fou qui a toute licence. Les autres gens de votre suite insolente récriminent. Et querelle à toute heure, se portant à des excès ignobles et intolérables. Monsieur, j'avais cru, en vous faisant connaître ces abus, en assurer le redressement. Mais maintenant, j'ai grand-peur, vous voyant si lent à parler et à agir, que vous ne les autorisiez et ne les couvriez de votre tolérance. Si cela était, Un pareil tort n'échapperait pas à la censure, et l'on aurait recours à des remèdes qui, appliqués dans un état salutaire, pourraient vous blesser, mais qui, dans une situation autre, seraient une humiliation justifiée par la nécessité comme un acte de sagesse. Le fou. Car vous savez, mon oncle, fredonnant, le passereau nourrit si longtemps le coucou qu'il eut la tête arrachée par ses petits. Sur ce, s'éteignit la chandelle et nous restâmes à tâtons. Lire à Gonéril. Êtes-vous notre fille ? Gonéril. Je voudrais que vous fissiez usage du bon sens dont je vous sais pourvu. Débarrassez-vous donc de ces humeurs qui depuis peu vous rendent tout autre que ce que vous devez être. Le fou. L'âne peut-il pas savoir quand la charrette remorque le cheval ? Aliboron, je t'aime. Lire. Quelqu'un me reconnaît-il ici ? Bah, ce n'est point lire. Est-ce ainsi que lire marche, ainsi qu'il parle ? Où sont ses yeux ? Où sa perception s'affaiblit, où son discernement est une léthargie ? Lui, éveillé, cela n'est pas. Qui est-ce qui peut me dire qui je suis ? Le fou. L'ombre de lire. Lire. Je voudrais le savoir, car, par le témoignage souverain de l'entendement et de la raison, je serais induit à me figurer que j'ai eu des filles. Le fou. Lesquelles veulent faire de toi un père obéissant. Lire à Gonéril. Votre nom, belle dame. Gonéril. Allons, monsieur, cet ébahissement est à l'avenant de vos autres récentes fredaines. Je vous adjure de bien comprendre ma pensée. Vieux et vénérable comme vous l'êtes, vous devriez être sage. Ici même, vous entretenez 100 chevaliers et écuyers, tous si désordonnés, si débauchés, si impudents, que notre cour, souillée par leur conduite, a l'air d'une auberge en pleine orgie. L'épicurisme et la luxure en font une taverne ou un lupanar plutôt qu'un palais princier. La pudeur même réclame un remède immédiat. Accédez donc au désir de celle qui, autrement, pourrait bien exiger la chose qu'elle demande. Réduisez un peu votre suite, et que ceux qui resteront dans votre dépendance soient des gens qui conviennent à votre âge et sachent ce qu'ils sont et ce que vous êtes. Lire. Ténèbres et enfer, qu'on scelle mes chevaux, qu'on rassemble ma suite. Dégénérée bâtarde, je ne te troublerai plus, il me reste une fille. Gonéril. Vous frappez mes gens, et tous les insolents de votre bande font des serviteurs de leurs supérieurs. Entre Albany. Lire. Malheur à qui se repent trop tard. Albany. Ah, vous voilà, monsieur. Est-ce là votre volonté ? Parlez, monsieur. Qu'on prépare mes chevaux, ingratitude. Démon au cœur de marbre, plus horrible quand tu te révèles dans un enfant que le monstre des mers. Albany. De grâce, sire, patience. Lire à Gonéril. Orfraie détesté, tu mens. Mes gens sont des hommes d'élite, du mérite le plus rare, qui connaissent toutes les exigences du devoir et qui supportent avec la plus scrupuleuse dignité l'honneur de leur nom. Oh, faute si légère, comment m'as-tu paru si hideuse dans Cordélia ? Tu as pu, ainsi qu'un chevalet, disloquer toutes les fibres de mon être et arracher tout l'amour de mon cœur pour en faire du fiel, se frappant le front. Oh, lire, lire, lire ! Frappe cette porte qui laisse entrer ta démence et échapper ta chère raison. À sa suite. Allez, allez, mes gens. Albany. Sire, je suis aussi innocent qu'ignorant de ce qui vous a ému. Lire. C'est possible, milord. Montrant Gonéril. Écoute, nature, écoute. Chère déesse, écoute. Suspends ton dessein si tu t'es proposé de rendre cette créature féconde. Porte la stérilité dans sa matrice. Dessèche en elle les organes de la génération, et que jamais de son corps dégradé il ne naisse un enfant qui l'honore. S'il faut qu'elle conçoive, forme de fiel son nourrisson, en sorte qu'il vive pour la tourmenter de sa perversité dénaturée. Puisse-t-il imprimer les rides sur son jeune front, creuser à force de larmes des ravins sur ses joues, et payer toutes les peines, tous les bienfaits de sa mère en dérision et en mépris, afin qu'elle reconnaisse combien la morsure d'un reptile est moins déchirante que l'ingratitude d'un enfant. Partons. Il sort. Albany. Dieu que nous adorons, d'où vient tout ceci ? Gonéril. Ne vous tourmentez pas d'en savoir le motif, et laissez son humeur prendre l'essor que lui donne le radotage. Rentre lire. Lire. Quoi ? 50 de mes écuyers d'un coup, au bout de 15 jours ? Albany. Qu'y a-t-il, monsieur ? Lire. Je vais te le dire. Il pleure. Agonéril. Vie et mort. Quelle honte pour moi que tu puisses ébranler ainsi ma virilité, et que ces larmes brûlantes qui m'échappent malgré moi te fassent digne d'elles. Tombe sur toi, ouragans et brouillards, que les insondables plaies de la malédiction d'un père rongent ton être tout entier. Il essuie ses larmes. Ah, mes vieux yeux débiles, pleurez encore pour ceci, et je vous arrache, et je vous envoie saturer la fange des larmes que vous perdez. Quoi ? Les choses en sont venues là ? Soit. Il me reste encore une fille, qui, j'en suis sûr, est bonne et secourable. Quand elle apprendra ceci sur toi, de ses ongles elle déchirera ton visage de louve. Tu le verras. Je reprendrai cet appareil que tu crois pour toujours dépouillé par moi. Tu le verras, je te le garantis. Sortent Lear, Kent et sa suite. Gonéril. Entendez-vous cela, milord ? Albany. Gonéril, je ne saurais être tellement partial pour la grande affection que je vous porte. Gonéril. De grâce, soyez calme. Hola, Oswald ! Au fou. Vous, l'ami, plus fourbe que fou. Suivez votre maître. Le fou. Mon oncle Lear ! Mon oncle Lear ! Attends, emmène ton fou avec toi. Il fredonne. Une renarde qu'on aurait prise en compagnie d'une telle fille serait bientôt au charnier si ma cape pouvait payer une corde. Sur ce, le fou ferme la marche. Il sort. Gonéril. Cet homme a eu une bonne idée. Sans chevalier, vraiment, il est politique et prudent de lui laisser garder sans chevalier tout armé. Oui, afin qu'à la première hallucination, sur une boutade ou une fantaisie, à la moindre contrariété, au moindre déplaisir, il puisse renforcer son imbécilité de leur violence et tenir nos existences à sa merci. Oswald, allons. Albany. Pourtant, vous pouvez exagérer la crainte. Gonéril. C'est plus sûr que d'exagérer la confiance. Laissez. J'aime mieux prévenir les malheurs que je crains que craindre toujours d'être prévenu par eux. Je connais sa pensée. J'ai écrit à ma sœur sur ce qu'il a déclaré. Si elle le supporte, lui et ses 100 chevaliers, quand je lui en ai montré les inconvénients... Eh bien, Oswald ! Entre l'intendant Oswald. Avez-vous écrit cette lettre à ma sœur ? Oswald. Oui, madame. Gonéril. Prenez une escorte, et vite, à cheval. Informez-la en détail de mes inquiétudes, et ajoutez-y de vous-même tous les arguments qui peuvent leur donner consistance. Partez vite, et hâtez votre retour. L'intendant sort. Albany. Non, non, milord, cette mielleuse indulgence qui règle votre conduite, je ne la réprouve pas, mais, pardonnez-moi cette franchise, vous méritez plus de reproches par votre imprudence que d'éloges par cette inoffensive douceur. Albany. Jusqu'où s'étend la portée de votre regard ? C'est ce que je ne puis dire. En visant au mieux, nous gâtons souvent ce qui est bien. Gonéril. Mais alors ? Albany. Bien, bien. Attendons l'événement. Ils sortent. Acte 1er, scène 5. Une cour devant le château du duc d'Albany. Entre Lear, Kent et le fou. Lear remettant un pli à Kent. Partez en avant pour Gloucester avec cette lettre. Instruisez ma fille de ce que vous savez, mais en vous bornant à répondre aux questions que lui suggérera ma lettre. Si vous ne faites pas prompte diligence, je serai là avant vous. Kent. Je ne dormirai pas, sire, que je n'ai remis votre lettre. Il sort. Le fou. Si la cervelle de l'homme était dans ses talons, ne risquerait-elle pas d'avoir des engelures ? Lear. Oui, enfant. Le fou. Alors, réjouis-toi, je te prie. Ton esprit n'ira jamais en savate. Lear. Ha, ha, ha. Le fou. Tu verras que ton autre enfant te traitera aussi filialement, car bien qu'elle ressemble à sa sœur comme une pomme sauvage à une pomme, pourtant... Je sais ce que je sais. Lear. Eh bien, que sais-tu, mon gars ? Le fou. Que celle-là différera de goût avec celle-ci autant qu'une pomme sauvage avec une pomme sauvage. Saurais-tu dire pourquoi on a le nez au milieu de la face ? Lear. Non. Le fou. Eh bien, pour avoir un œil de chaque côté du nez, en sorte qu'on puisse apercevoir ce qu'on ne peut flairer. Lear, absorbé. J'ai eu tort envers elle. Le fou. « Saurais-tu dire comment l'huître fait son écaille ?» Lear.
Non.
Le fou.
Moi non plus. Mais je saurais dire pourquoi un colimaçon a une maison.
Lire.
Pourquoi ?
Le fou.
Eh bien, pour y caser sa tête, et non pour le donner à ses filles et laisser ses cornes sans abri.
Lire, toujours absorbé. Je veux oublier ma nature. Un père si affectueux.
Mes chevaux sont-ils prêts ?
Le fou.
Tes ânes sont allés y voir. La raison pour laquelle les 7 planètes ne sont pas plus de 7 est une jolie raison.
Lire.
Parce qu'elles ne sont pas 8 ?
Le fou.
C'est cela, vraiment ? Tu ferais un bouffon parfait ?
Lire, toujours rêveur. Reprendre la chose de force. Monstrueuse ingratitude.
Le fou. Si tu étais mon bouffon, mon oncle, je te ferais battre pour être devenu vieux avant le temps.
Lire.
Comment ça ?
Le fou.
Tu n'aurais pas dû être vieux avant d'être raisonnable ?
Lire.
Oh, que je ne devienne pas fou ! Pas fou, cieux propices ! Maintenez-moi dans mon bon sens, je ne veux pas devenir fou.
Entre un gentilhomme.
Eh bien, les chevaux sont-ils prêts ?
Le gentilhomme.
Tout prêt, sire.
Lire au fou.
Viens, mon gars.
Le fou.
Celle qui, vierge en ce moment, rit en me voyant partir, ne sera pas vierge longtemps, à moins que les choses ne soient coupées court.
Ils sortent.